Go.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour, à de nouveau, un carnet de route en ce moment même, qui va commencer dans un petit instant.
We're gonna let you go, okay?
Et nous voilà pour une émission carnet de route du projet Samarconde.
I'll do it.
Samarconde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté.
Salut, salut à tous.
Bonjour, Bilal.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Nyx.
Bonjour.
Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis en train de grandir, mais c'est dur, quoi.
Vous respirez, je vous pense que vous êtes plus à l'aise.
Vous pouvez parler franchement, ça me dérangerait pas.
On est sur Terre, on l'a peut-être pas demandé, mais on peut vivre avec.
Qui on est pour juger quelqu'un d'autre?
Les carnets de route, ce sont des projets éducatifs proposés par l'AMO Samarcande.
I'll do it.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voilà pour un carnet de route aujourd'hui en compagnie de Mika. Et je vous rappelle que les carnets de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui en ont fait la demande de s'exprimer en toute liberté pendant à peu près une heure. Et aujourd'hui, dans le magnifique petit studio mobile de Samarcande, j'ai le plaisir d'accueillir Mika qui, je dis bonjour.
Bonjour, je me présente, je viens de l'IPPJ de Évreux. Et je suis très contente de vous retrouver pour un carnet de route là aujourd'hui. Et commençons tout de suite.
Oui, tu as dit ton âge.
Ah, j'ai oublié. Mais j'ai 16 ans. Mon anniversaire, c'est le 4 juin. Voilà.
Le 4 juin. Et alors, je ne peux pas te souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. Mais 16 ans et tu vis aussi dans cette... Tu as dit que tu vivais où?
Actuellement, ça fait quand même un petit moment... là maintenant je vis à l'IPPJ, mais de base je viens de Bruxelles.
Et chez ta maman, hein.
Ouais, chez ma mère.
Et ton papa qui est ailleurs et qui n'est pas avec vous. Merci en tout cas Mika d'être là, et comme je le rappelle aussi, tu fais partie des dernières jeunes filles que je vois ici dans l'institution. Peut-être l'avant-dernière. Et voilà. Et puis, je suis toujours heureux de venir à votre rencontre et je voulais te poser une petite question Mika. Pourquoi tu as eu envie de faire ce projet?
Franchement, en fait, genre ce projet, c'est surtout un plaisir parce que, en fait, j'ai l'impression de nos jours, on donne pas beaucoup la possibilité aux jeunes de s'exprimer, de parler de sujets qui leur portent à cœur ou à des sujets qu'ils pensent souvent, quoi. Genre, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui pensent, c'est difficile de grandir ou alors des choses de ce genre-là. Et franchement, donner la parole aux jeunes, c'est un truc qui me plaît bien. Et moi, je me dis pourquoi pas participer, c'est un chouette truc et voilà quoi.
Merci hein, Mika. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que tu fais des études en artistique.
Oui.
Tu es en troisième professionnel et tu aimes le graphisme. En tout cas, c'est ton orientation. Aujourd'hui, justement, pour te donner la parole et autour de ta parole, tu as, avec moi, choisi des sujets. Je te les rappelle rapidement. Il y a les gens gênés de montrer leur émotion, la société qui n'écoute pas assez les jeunes d'aujourd'hui par rapport à la consommation, par exemple, et aux réseaux sociaux, et aussi des choses en lien avec ta famille.
Ouais.
C'est ça. Et on écoutera aussi de la musique.
Avec plaisir.
C'est pas banal, parce que toi, tu as choisi du rap, mais quel genre, quelle époque?
Surtout, moi, j'aime bien le rap des... les années 90, 2000, début 2000. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai l'impression que comparé au rap d'aujourd'hui, par exemple, les grands emblèmes, je vais dire quoi, PNL, SCH, Jul et tout. En fait, auparavant, je sais pas, c'était plus sur des sujets qui sont d'actualité. Genre par exemple, à ce moment-là, les rappeurs, ils n'avaient pas forcément parlé de tout l'argent qu'ils ont, des délits qu'ils ont faits, ils vont plus parler de genre, dans les familles, ça se passe pas bien, dans la rue, c'est compliqué parfois. Et franchement, c'est touchant parfois certaines musiques, par exemple, les musiques de IAM, par exemple, Petit Frère, qui parle d'un petit qui veut grandir trop vite en voyant justement les idoles qu'il a devant lui, genre pas forcément des idoles en mode des stars, mais même par exemple les grands dans la rue qui, eux, ils ont grandi un peu, je vais pas dire directement dans la pauvreté, mais dans la précarité, par exemple, et qui essayent de s'en sortir, par exemple, avec le deal, avec des façons qu'on considère pas très bien dans la société, évidemment. Mais ça parle beaucoup de ces choses-là. Par exemple, il y a aussi IAM, né sous la même étoile, qui parle justement de la précarité quand on est enfant et... Mais franchement, c'est des sons qui, franchement, je dirais aux gens d'écouter. D'écouter, et pas juste pour l'instrumental qui est aussi ultra bien, mais aussi pour les paroles. Genre, lire les paroles et tout, c'est... Franchement, on peut réfléchir à ces paroles-là comparé à certaines musiques qui, de nos jours, sont surtout basées sur le rythme, en mode « ouais, c'est des musiques cool et tout ». Genre, il y a vraiment des musiques, dans les années 2000 et tout, c'était vraiment genre, juste centré sur... Ben, il y a certaines situations, voilà la réalité de ces situations, mais données en forme de musique. Pas juste en explication, en mode « ouais, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça ».
Ben justement, je te propose, c'est d'écouter ton premier choix, et c'est, tu l'as mentionné, hein, tu vas reconnaître.
Petit frère.
Né sous la même étoile.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dit les chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir. Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile? Veillant sur moi, couloir plein de doigts. De cracha, cha cha, de franc. Compète des tapettes devant. Supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire, faire.
Je peux rien faire, faire.
Je peux rien faire, faire.
Je peux rien faire.
Et voilà, ce fut un plaisir. Et on a écouté là maintenant IAM, Né sous la même étoile. Et franchement, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce son, c'est que surtout, ben, on n'est pas né sous la même étoile, quoi. On a beaucoup, on a tous en fait des enfances très différentes. Et c'est surtout, ben, ce thème-là de l'enfance dans la ville, dans la rue, quoi. Et ben, on joue pas avec les mêmes cartes, comme ils disent. Malheureusement, il y en a certains et ils doivent galérer à nourrir leurs petits frères, leurs petites sœurs. Ils voient des moments difficiles dans leur famille et voilà quoi, l'enfance dans la rue, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose quand on a vu beaucoup de choses dans la rue qui se passent. Mais franchement, ce son-là, il me touche un peu au fond. Parce que je me dis, ouais, si je serais née sous une différente étoile, ben, peut-être les choses auraient évolué d'une différente façon. Mais on ne doit jamais se dire que, certes, on n'a pas eu les mêmes cartes que les autres, mais il ne faut pas se dire que le destin va être misérable. Parce que peut-être le moment actuel est misérable, mais si on travaille sur soi et qu'on veut avoir les bonnes cartes, on peut le faire. Notre destin peut évoluer. Et franchement, ça, c'est un message que j'ai envie de faire passer aux autres. Parce que j'ai passé par des moments ultra difficiles quand j'étais petite et même actuellement. Mais tant qu'on travaille sur nous-mêmes, il ne faut jamais se dire que non, je ne peux pas le faire. Tu peux le faire, tu es assez fort, il faut juste que tu trouves ta voie. Il faut juste que tu trouves ta voie dans ce monde qui est rempli de plein de brouhaha, plein de cris, plein de voix. Mais tu auras la tienne tôt ou tard, il faut juste tenir coup. Il faut juste tenir à ce fil qui est, même s'il est tout fin, il faut juste y tenir. Avec toute la volonté qui te reste. Parce que même quand on se trouve au fond du trou, franchement, c'est horrible hein, quand on se trouve à ce moment-là. Parce qu'on se dit, ben non, en fait, la vie, elle ne veut plus rien dire. Elle ne veut plus rien dire parce que là, c'est trop compliqué. Il y a trop de trucs qui m'arrivent. Il y a trop de trucs qui arrivent aux gens que j'aime. Il y a trop de trucs qui se passent autour de moi. Mais en fait, au final, si on veut le faire, on pourra le faire. Parce que par exemple, IM, genre, ils sont en train de parler de moments difficiles pendant leur enfance ou quoi que ce soit, mais si on regarde ça sur un plus gros plan, par exemple, ils ont vécu beaucoup de choses difficiles qu'on peut retrouver dans beaucoup de leurs sons, mais voilà quoi, au jour actuel, IM, c'est l'un des plus grands groupes qui a un peu créé le rap français quoi. Donc j'ai envie de dire, par exemple, eux, ils ont galéré pendant leur enfance et tout, qui est une différente galère qu'on peut retrouver de nos jours dans les villes et tout, mais ils ont quand même pu le faire. Et franchement, c'est un message à faire passer aux autres, on peut le faire coûte que coûte.
Et en même temps, je pense à ça, c'est que c'est une musique de la génération de tes parents aussi. Ils ont pu écouter et être sensibles à ce qu'ils disaient.
Oui, c'est mon père qui m'a fait découvrir ce son-là. Ce son-là, c'est le premier son qui m'a fait écouter. Et franchement, je l'ai vraiment bien aimé, surtout pour l'instrumental et pour les paroles en général aussi. Et mis à part ça, IAM, c'est un grand groupe et franchement, je le propose aux autres. Parce que certes, même si on n'aime pas le rap ancien ou qu'on préfère les instrumentales de nos jours, par exemple, qui sont plus basées sur le UK trap de l'Angleterre, par exemple, mais franchement, même pas juste pour l'instrumental, mais pour les paroles. Pour les paroles, il y a franchement beaucoup de gens qui pourraient se retrouver là-dedans.
Merci beaucoup, hein.
De rien.
Mika, ici, c'était pour introduire ton premier sujet, la gêne de montrer ses émotions. Et alors, tu parlais de ces cartes qu'on ne recevait pas tous très tôt. Mm-hmm. Après, moi, je le mets un petit peu en lien aujourd'hui. On va discuter un petit peu de ce qu'on s'est dit pendant la préparation. Donc, si à un moment, tu ne veux plus aborder certaines choses, tu me le dis simplement. Mais ce que je disais ici, c'est ce que je lis ici, c'est né dans un contexte parfois où les adultes qui sont les plus proches de nous sont très, très fragiles. Ils te montrent une image un peu cabossée par la vie. Mmh. Et je crois que parfois, c'est dans la famille qu'on vit ce moment-là, où on voit papa et maman qui ne vont pas bien ou qui témoignent aussi comment expliquer ça ? De difficultés, de grandes difficultés. Et toi, tu avais témoigné de ça. Est-ce que tu as envie un petit peu d'en parler ?
Oui, bien sûr.
Du parcours, parce que tu parlais quand tu étais toute petite, que tu as vécu des choses qui n'étaient pas évidentes.
Oui, en fait, généralement, la réaction de nos parents face à des problèmes que nous, on peut ressentir, ou alors de choses qu'on peut ressentir, il ne faut pas toujours se dire, parce que moi, je suis passée par là, je me disais que, en fait, non, mes parents, ils ne comprennent rien, en fait, ils servent à rien et tout. Mais en fait, parfois, ça peut juste dire qu'eux aussi, ils ont vécu des choses qui sont peut-être similaires. Ou alors, je vais pas dire pire, parce qu'il ne faut jamais comparer nos problèmes à ceux des autres. Même si on pense que ouais, l'autre, il ne souffre pas autant que ça, parce que moi, j'ai souffert plus, ça ne veut rien dire. On souffre tous d'une différente manière. Et en fait, nos parents, certains ont dû grandir même avec ces souffrances-là sans pouvoir forcément en parler avec leurs propres parents. Et donc, du coup, ça leur fait bizarre. Ils n'ont pas eu ce même rapprochement auparavant quand eux, ils étaient petits. Et moi, j'ai vécu beaucoup. Enfin, j'ai vu surtout beaucoup de violence entre mes parents, parce que surtout, faut savoir que mes parents étaient très jeunes quand ils m'ont eu. Et forcément, avoir un enfant, quand toi-même t'as encore un enfant, c'est compliqué, ça va toujours être compliqué. Et franchement, ma mère a vécu des trucs similaires à moi, que je vais pas aborder ici, mais bon, voilà.
Tes parents avaient quel âge quand ils t'ont eu ?
Mon père, il avait entre 16 ans, 15-16 ans. C'est un 1992, mon père, donc il m'a eu assez tôt. Ma mère, elle avait 18 ans. Elle est arrivée d'un contexte assez difficile. Elle est arrivée de Roumanie. Toute sa vie, elle a vécu en Roumanie, à la campagne roumaine. Voilà, rien à voir ici en Belgique. Et dès l'âge de 18 ans, elle est arrivée ici en Belgique, au beau milieu de la ville, à Bruxelles. Elle comprenait rien, quoi. Et elle a vécu beaucoup de choses difficiles, ma mère. Et maintenant que j'ai grandi et que j'ai su comprendre ce qui m'était arrivé à moi, mais aussi surtout ce qui était arrivé à mes parents. Genre, qu'est-ce qui les a emmenés à se sentir comme ça? Parce que, par exemple, j'ai toujours eu du mal à parler de mes sentiments, de comment je me ressentais, de ce que je vivais là maintenant à mes parents. Mais pourquoi ? Parce que eux aussi, ils avaient eu du mal. Eux aussi, ils ont beaucoup eu de mal quand ils étaient jeunes et tout. Par exemple, le fait de parler de ses émotions dans ma famille, c'est un truc quasi inconnu, quoi. Genre, jamais, franchement, j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça de nos jours dans les familles. Par exemple, quand un parent voit que son enfant va pas si bien que ça, ou alors qu'il se renferme un peu plus, qu'il s'isole de ses amis ou quoi, de s'asseoir à table, ou même pas forcément à table, dans sa chambre, quand il est pas très bien, et de dire, écoute, je sais que tu vas pas bien, je comprends ce que tu vis, est-ce que tu veux en parler ? Il faut jamais forcer les jeunes à parler, parce que s'ils veulent pas, ça va encore plus les renfermer sur soi. Genre par exemple, les parents qui forcent les jeunes à aller voir des psychologues. Et je dis pas les proposer, les forcer, en disant « Ouais, mais t'es complètement folle dans ta tête, faut que t'ailles voir un psy. » Parce qu'après, les jeunes, ils vont se dire « Ah mais non, les psys, en fait, c'est juste pour les fous. C'est juste parce que mes parents m'ont considéré comme fou, donc du coup, je dois aller à un psychologue. » Et par exemple, même ça peut beaucoup nous éloigner des aides qu'on pourrait avoir. Et franchement, si les parents se posaient plus souvent avec leurs enfants en leur demandant « Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui te fait sentir comme ça ? Dis-moi ce qui se passe. » Franchement, ça pourrait aller mieux dans beaucoup de familles. Parce que moi, cette discussion, je ne l'ai pas souvent eue. Je ne l'ai vraiment, vraiment pas souvent eue. Et franchement, c'est malheureux, quoi. Parce que il y a plein de choses qu'on pourrait découvrir par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents, qui sont franchement difficiles à entendre parfois, mais qui nous font réfléchir en mode « Ah, mais certaines réactions de mes parents, c'est peut-être lié à ça. C'est peut-être lié à ce manque d'amour qu'eux, on peut revivre. » Ils ont pu vivre ça quand ils étaient jeunes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent comme ça. Parce que leurs parents, genre, ils se sont pas posés avec eux en disant « Qu'est-ce qui va pas ?» Jamais. Donc du coup, ils vont pas se dire « Je dois faire la même chose avec mon enfant. Mon enfant, il est comme moi, donc du coup, il va tout encaisser à l'intérieur de lui, comme moi. » Mais sauf que, malheureusement, certains enfants, certes, ils font ça et ils encaissent à l'intérieur d'eux, mais ils vont pas peut-être réagir comme leurs parents qui, eux, gardent tout en eux. À un moment, certains enfants, ils vont complètement péter un plomb. Et c'est ça, malheureusement, que les parents, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand, par exemple, les jeunes, ils gardent beaucoup en eux, ils disent rien à personne et tout, et que, ah, comme par hasard, à un moment, ils pètent un plomb. Tout le monde est surpris. Mais c'est normal. Si le jeune, il n'a pas un espace pour parler, il n'a pas quelqu'un de confiance pour parler, il peut pas, genre, se représenter en quelqu'un. Genre se dire « Ah ouais, cette personne, elle a vécu la même chose que moi. Peut-être elle pourra me comprendre sur un certain niveau. » Mais voilà, quoi. Et les jeunes qui n'ont pas eu cette conversation-là, ils vont péter un plomb tôt ou tard d'une façon différente ou l'autre. Et c'est ça qui est malheureux.
Qu'est-ce qu'il leur manquerait quand ils seraient grands, ces enfants qui ne se sont pas retrouvés dans ce contexte-là ?
La communication. Par exemple, ça peut les suivre jusqu'à leur relation amoureuse. Par exemple, des jeunes qui n'ont pas eu ce contact avec les parents, ce contact de parler de ce qui ne va pas. Genre, par exemple, quand les enfants se disputaient avec les parents et que une heure, deux heures après, un jour plus tard, on faisait comme si de rien n'était. Dans une relation, ça peut être complètement désastreux parce que son amoureux, c'est pas comme son parent. Son amoureux, il va aussi garder ça en lui et tout. Et ça peut franchement détruire des relations qui sont pourtant très belles pour les jeunes. Et quand ces relations-là se détruisent, ça va encore plus nuire à leur santé mentale qu'autre chose. Et franchement, ça peut emmener à un manque de communication, un manque d'amour. parce qu'ils vont se dire « Ah, mais mes parents, ils me montraient leur amour de cette façon-là, donc c'est comme ça que je dois montrer mon amour aussi. » Et ça peut emmener à beaucoup de problèmes. Bien évidemment, tout est différent chez tout le monde. Certaines personnes n'auront pas ce mécanisme de défense, comme je vais dire, que les autres. Par exemple, il y en a certains, ils vont s'isoler, ils vont se renfermer sur soi. Il y en a certains, ils vont péter un plomb beaucoup plus souvent, ils vont crier, ils vont se disputer beaucoup plus souvent. Et il y en a certains, ils ne savent pas gérer ça. Ils ne savent pas gérer ça, donc du coup, ils vont essayer de se procurer un moyen de réconfort autre que, par exemple, la discussion ou alors se poser calmement et essayer de réfléchir. Je pense notamment aux stupéfiants ou alors... Il y a beaucoup d'autres aspects. Parfois, on peut se montrer violent envers les autres parce que justement, on a trop en nous. On a trop en nous et on ne sait pas comment décharger toutes ces émotions. On n'en a pas conscience parce que nos parents ne nous ont pas montré ou ne nous ont pas expliqué comment on décharge les émotions.
En même temps, c'est une vachement grande responsabilité de la part des parents, parce que si les parents t'entendent, beaucoup de choses viendraient des parents. Beaucoup de difficultés rencontrées par vous, tu l'associes aux parents. Tu dirais que c'est beaucoup de manque de communication, beaucoup de difficultés au sein des familles. Parce que je pense aux jeunes filles ici, en IPPJ. Tout ce que tu traduis, la violence, l'automutilation parfois, la consommation. Beaucoup de jeunes filles sont ici pour ça. Mais tu ne dirais pas forcément qu'elles ont toutes des difficultés en famille.
Bien sûr, ça peut être complètement différent. Les difficultés en famille, ça ne lie pas forcément à ça. Ou alors, les consommations et tout, ça vient pas forcément de problèmes en famille, mais ça peut être de beaucoup de choses. Et je vise surtout ces problèmes-là sur les parents, parce que je l'ai vu dans ma propre famille et aussi dans la famille de beaucoup de mes amis, c'est surtout ce manque de communication. C'est, franchement, pour moi, c'est ça, quoi.
Je t'interromps, excuse-moi, c'est pas très bien ce que je fais, mais tu dirais que dans les familles, enfin, parce que tu parles aussi de ta génération, il y a un autre sujet là-dessus, est-ce que tu dirais que c'est, pour beaucoup de jeunes de ta génération, la communication au sein des familles, elle est compliquée?
Oui, enfin, je dirais pas pour tout le monde, parce que bien évidemment, tout le monde est différent, mais je sais pas, moi franchement, la communication, c'est souvent un problème. Parce que soit les parents sont trop occupés, soit les parents vont se dire « Mais non, c'est bon, tu peux gérer ça tout seul, continue sur ce que tu es en train de faire » ou alors des trucs comme ça, quoi. Mais moi, ce que je pense vraiment quand je dis la communication dans la famille, c'est vraiment voir que son enfant ne va pas bien et ne rien faire. Ça, par exemple, c'est pas une bonne communication.
J'essaie aussi une question, mais quand tu dis ça, est-ce que c'est pas le rôle de tous les adultes qui gravitent autour des jeunes, par exemple les profs, les éducateurs que tu vas pouvoir rencontrer, les parents bien sûr, mais d'être attentif, tu vois, au mode de fonctionnement des jeunes et de parler avec lui quand on sent qu'il va pas bien.
Ça, bien sûr.
Et de constater, ça être disponible à ce moment-là, pour ne pas mettre toute la responsabilité sur les parents, parce que j'ai l'impression que parfois... t'as des travailleurs, même ici, qui se sentent pas bien dans leur travail ou qui ont un coup de mou. Et c'est aussi, est-ce que c'est pas... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais la société, elle devient très compliquée aussi, très complexe pour trouver sa place et se sentir heureux.
Ouais, franchement, je suis d'accord.
Et ça rejaillirait sur les enfants.
Franchement, je suis d'accord. Et en fait, genre, porter une attention, pas toute son attention, mais quand même un tout petit peu pour dire... Ah mais attention, son comportement là maintenant il sort un peu de l'habituel, parce que se questionner sur les comportements des autres, pas seulement ceux des enfants, mais même ceux des gens qui nous entourent, des adultes et tout, par exemple au sein d'une entreprise, un boss qui va pas se dire « Ah mais mon employé il va pas bien », qui va pas se questionner sur ça, ou peut-être dire à son employé « Hey gars, est-ce que ça va et tout, je vois que tes performances elles sont pas si belles que ça et tout, est-ce que ça va ?» Par exemple, parce que ça... tes performances. Mais genre ça peut venir de beaucoup de choses, que c'est pas forcément tout le temps facile à parler de ces choses-là, mais quand même donner la possibilité de dire à une personne qui va pas bien en mode et si t'as besoin de parler, je suis là. Si t'as besoin d'extérioriser, de souffler, lâcher ton sac, je suis là. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Ça peut aider beaucoup de personnes parce que par exemple je sais pas, on vit un moment difficile mentalement, ou alors au sein de la famille, au sein d'un couple, ou quoi que ce soit, ben, entendre cette voix qui nous dit « Est-ce que ça va ? Est-ce que tu veux en parler ?» Ça peut beaucoup aider, parce que généralement, c'est quand on garde trop en nous. c'est quand on garde trop en nous et qu'à un moment, on ne sait plus comment gérer toute cette tristesse, cette haine, cette frustration. Et on ne sait plus comment le faire. Et donc, justement, savoir qu'on peut parler à quelqu'un, qu'on a une personne de confiance, c'est toujours ultra bénéfique. Et franchement, quand je vois des adultes qui sont là, qui portent vraiment leur attention à des élèves qui ne vont pas bien, ou alors même des collègues, par exemple, qui ne vont pas bien ou quoi, qui leur demandent hey, « qu'est-ce qui se passe ?» et tout, franchement, c'est... Ça, je respecte énormément. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petite et que je vivais des trucs difficiles, mes profs, ils s'en foutaient, quoi. Ils me demandaient pas forcément « est-ce que ça va ?» Au jour où alors je commençais à pleurer au beau milieu de la classe et que je me sentais pas bien et que ça arrivait au point où je pouvais même plus parler tellement je pleurais trop.
Et tu as subi aussi du harcèlement à l'école, hein, je me souviens.
Ouais, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup. Et par exemple, en maternelle, ça allait, bien évidemment, on est tous petits. Mais dès la primaire, par exemple, moi, mon plus gros problème, c'était justement avec les garçons. Parce que quand j'étais petite, j'avais une poitrine forte développée. Et ça amenait à beaucoup de regards, de moqueries, je vais dire, mais des moqueries un peu space, on va dire, voilà, de la part de certains garçons, quoi. Ça, par exemple, quoi, il y a eu une bête fois, j'étais en couple de primaire, quoi, avec un garçon. Et ça aussi, ça, c'est un gros sujet, genre l'influence des autres. Par exemple, il y avait toutes mes copines qui me disaient « Ouais, mais en fait, lui, il est moche, qu'est-ce que tu fais avec lui ?» et tout. Et justement, à cause de cette pression-là, déjà de base, je me sentais pas bien à cette école. Mais en plus, avec la pression des filles qui je considérais comme mes seules copines, ben, genre, du coup, j'ai rompu avec ce garçon-là et ça m'a emmené beaucoup plus d'harcèlement.
Après, tu m'avais dit que tu m'autorisais à le dire d'une certaine manière, hein, Mika. Mais à ce moment-là, toi, tu avais des problèmes d'image de toi,
ouais.
Parce que, je pourrais couper ça si tu veux, hein, mais parce qu'un adulte n'a pas été correct avec toi.
Ouais, et
ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, prendre soin des plus jeunes.
Mmh.
Et tu vois, et ça a eu un grand impact sur ta jeunesse aussi.
Ouais, et même pas juste sur ma jeunesse, sur ma façon de penser, de grandir, ça peut emmener à beaucoup de problèmes, genre sur tout ce sujet-là, qui est assez tabou quand même de nos jours, mais qui s'éclaircit un peu.
Pourquoi c'est tabou ?
C'est tabou, je sais pas pourquoi c'est tabou, même c'est pas censé être tabou, faut en parler de ces situations.
Pourquoi toi tu as eu du mal à... tu n'as rien dit ?
En fait j'ai rien dit, bah surtout parce que... c'était une période assez spéciale pour ma mère et tout. En fait, cette personne-là, cet adulte-là, était là pour aider, pour compenser un peu, entre guillemets, le manque de mon père, qui, lui, il aidait financièrement un peu ma mère, des trucs comme ça et tout. Et en fait, je pense que j'en ai pas parlé par peur, par aussi, je voulais pas créer encore plus de problèmes au sein de ma famille, alors qu'il y en avait déjà assez, je voulais pas en créer plus. Et c'est ça aussi le problème. Genre, par exemple, les enfants qui, de base, sont dans un endroit familial assez compliqué. Si, en plus, il se passe des choses comme ça avec certains adultes, ça va beaucoup pas aider parce que l'enfant, il va se dire, mais merde, en fait, moi, j'ai des problèmes là. Et si je les amène dans ma famille, ça va encore plus empirer. Et, du coup, ça lie à des jeunes filles que moi, par exemple, j'ai été cette jeune fille qui, quand elle entendait que c'était cet adulte-là qui venait me chercher à l'école, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Je disais au prof, non, je veux pas rentrer, je veux rester à la garderie et tout. Et genre, je faisais une sale tête quand je devais partir avec lui. Mais malheureusement, il y avait aucun adulte qui se disait quoi que ce soit. Et c'est ça qui est triste. Et franchement, si les adultes regardaient un peu plus, par exemple, juste les expressions, les comportements, ça serait, franchement, ça pourrait dire beaucoup. Ça pourrait en dire beaucoup, alors que après, il y a certains adultes qui sont choqués, ils sont là en mode ah bon, ça se passait comme ça et tout. Ben oui, ça se passait comme ça, mais franchement, si t'aurais vu que la gamine, elle se sentait pas bien en cours, ou alors que justement par rapport à certains profs, professeurs masculins, ou alors ses camarades masculins, elle se sentait un peu plus renfermée, ou alors un peu plus repoussée, tu te serais dit quand même il y a un petit problème là, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça ?
Un jour, à l'école, tu trouves quand même la force, le courage aussi, d'aller voir quelqu'un du centre PMS. Oui. C'est ça, c'est une psy, je pense.
Oui, c'était la psy du centre PMS.
Qu'est-ce qui t'amène justement à aller vers elle à ce moment-là ?
Franchement, en fait, cette psychologue du PMS, d'ailleurs, j'espère si elle se reconnaît parce que je ne me rappelle plus de son prénom, mais voilà. Mais donc du coup, en fait, elle a toujours un peu été là. Genre, par exemple, vu que ma mère, pour elle, c'était compliqué et tout à la maison, mais par exemple, cette madame, je lui parlais beaucoup. C'était un peu comme ma meilleure amie, quoi. Et mais genre, je lui demandais même, ouais, est-ce que tu peux m'apprendre à faire du vélo, nanana, nanana. Alors qu'elle-même, elle avait sa famille sur le côté. Mais
tu l'as considérée un peu comme une maman, je crois.
Ouais, un peu comme une deuxième maman. Et franchement, à ce moment-là, en fait, je pense, ce jour-là, j'avais encore entendu qu'il venait me chercher. Et à ce moment-là, je pouvais pas. J'ai commencé à pleurer en classe et tout. J'ai demandé à la voir. Et là, j'ai tout lâché. J'ai lâché ce qui se passait depuis des années, en fait. C'est parce que ça se passait comme ça depuis des années. Et la madame, elle était choquée. Elle était choquée. Je pense qu'elle se disait, mais comment l'information n'est pas arrivée plus tôt, en fait? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi la gamine, elle a eu aussi peur d'en parler jusqu'au moment où, du coup, elle pète un plomb? C'est surtout ce moment-là, quand les jeunes, ils n'ont pas parlé de ce qui se passait et qu'ils craquent. C'est littéralement juste craquer parce que là, ça va plus. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, j'en peux plus. Je dois relâcher ça d'une façon ou d'une autre. Et elle a appelé mon père. Mon père est venu.
Tu étais d'accord?
J'avais un peu peur à ce moment-là quand même. J'étais là en mode, mais comment est-ce que mon père il va réagir et tout? Surtout que mon père, il était pas si souvent là du coup, vu qu'il était un peu absent. Et je me disais, attends, le type il est quasi jamais là, comment est-ce qu'il va réagir face à un aussi gros problème? Et lui aussi était perdu. On était devant l'école, il me dit droit dans les yeux, est-ce que t'es sûr que ça s'est passé? Et c'est ça aussi, genre remettre en question ce que des enfants ont pu vivre. Parce que c'est déjà assez compliqué d'en parler, c'est déjà assez compliqué d'aborder le sujet, de dire ouais, il m'est arrivé ça, je me sentais bizarre quand ça se passait et tout. Et dire que t'es sûr que ça s'est passé, c'est quand même compliqué à entendre. Parce qu'on se dit, mais merde, en fait, je viens de raconter tout ce que je viens de vivre. Et tu me demandes quand même si je suis sûre de si j'ai vécu ça, de toutes les sensations que j'ai vécues, de toute la douleur que j'ai vécue. Je sais que je l'ai vécu. Je l'ai ressenti pendant des années. Et tu me demandes ça. Mais après, la situation, elle a été gérée d'une façon quelconque. Voilà.
Pourquoi quelconque?
Voilà quoi, mon père en fait il avait des soucis avec la justice à ce moment-là, voilà, c'est pour ça que il a été emmené là où il est là maintenant. Il faisait beaucoup de fraude fiscale vu que il était jeune quoi. Il était jeune, il savait pas comment forcément travailler bien et mais justement genre en fait ce type, c'est ça aussi la façon de comment certains adultes réfléchissent, c'est méprisable franchement parfois. Genre ce type, il avait dit à ma mère, si tu me dénonces, je dénonce ce que ton mari y fait. Et c'est ça aussi genre ce qui est difficile pour genre par exemple une maman qui entend ce qui se passe à sa fille et qu'en plus on lui dit ça parce qu'elle se dit, mais en fait j'ai pas envie de perdre mon mari, mais en même temps j'ai pas envie que ce type soit il continue à faire souffrir ma fille, soit il reste impuni quoi. Et du coup mon père ce qu'il a fait, c'est que il a propagé des photos de lui, de ce type-là, dans là où il habitait. Et voilà, les voisins sont un peu occupés de lui, voilà, des trucs de ce genre-là. Mais voilà, il n'y a jamais eu vraiment, par exemple, genre un passage à la justice pour ce qui s'était passé. Et franchement, maintenant, je m'en fous un peu parce que, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, quoi, on me l'avait promis quand j'étais petite que, ouais, on allait aller au commissariat et tout, t'inquiète, on va aller à la police. Mais finalement, ils l'ont jamais fait. Donc franchement, j'ai envie de me dire, tant que ce type reste loin de moi, ça me va. Il y a eu des fois où je l'ai recroisé quand même. Hein. Il y a eu des fois, même récemment, hein, très récemment, où je l'ai recroisé. Genre, par exemple, j'étais en 6e primaire, je sortais de l'école pour après avoir fini mon CEB. Je suis au trottoir et je vois ce type qui passe. Je lève ma tête, je vois exactement son visage. Je vous dis même pas comment j'ai couru jusqu'au bus. J'ai appelé mon père, j'étais en pleurs. Je lui dis, papa, je l'ai croisé et tout. Et en soi, même si je l'ai recroisé, je m'étais dit, là, même si je le recroise, il a pas le droit de gâcher toutes les années de souffrance que j'ai dû vivre pour en arriver au moment où je me dis, tout va bien, ça doit plus m'impacter.
Ou d'autres enfants qui pourrait être aussi souffrir de ces agissements.
Ouais, c'est ça le truc. Et franchement, c'est triste. Parce que si ce type il aurait été enfermé, je pense... je sais pas s'il a fait ça à d'autres enfants, j'espère vraiment pas. Parce que déjà, le faire à un seul enfant, c'est horrible. Mais le faire à d'autres enfants aussi, c'est complètement horrible.
Je voudrais que tu lises cette petite phrase, Mika. C'est une phrase qui vient de toi.
Beaucoup de gens pensent que ce genre de choses se passent dans les mauvaises familles. Et c'est pas forcément vrai. c'est pas forcément vrai, parce que même, par exemple, je sais pas, dans les familles, on va se dire, je sais pas, Wally Wessin-Lambert, par exemple, même là-bas, ça peut se passer. Même dans les familles riches, ou pas juste les familles issues de la précarité ou quoi que ce soit, ça peut se passer. Tout le monde peut être tordu. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais même le type qui paraît le plus normal au monde, dans sa vie, il pourrait faire des dingueries à des gens, c'est ça le truc. Et mais c'est ce stéréotype, littéralement, que ça se passe seulement dans les mauvaises familles où il y a de la violence, où de base il y a une atmosphère étrange et tout dans la famille, ça vient pas forcément de là. Genre, ce type, juste, vraiment, il avait un truc dans la tête, il voulait aboutir à ses idées. Mes parents, eux, ils ont jamais été bizarres envers moi. Ma mère, elle a toujours été, même si c'était ultra compliqué, elle a essayé d'être là pour moi. Mon père aussi, repentir, c'est le seul mot que j'ai trouvé. Mais il essaie de se racheter envers moi, par exemple. Mais voilà, quoi, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Genre... juste que l'enfant se trouve avec une personne qui... et cette personne a des idées dans sa tête, ça peut amener à beaucoup de choses. Ça peut amener à des choses horribles. Et par exemple, ce genre de personnes, ce qu'elles vont faire, et il y a un terme en anglais pour ce genre de comportement, c'est le grooming. Le grooming, c'est par exemple un adulte qui va justement, faire en sorte que l'enfant lui fasse confiance. Genre lui acheter des trucs, faire des activités avec elle et tout. Faire en sorte que tout se passe bien et tout, pour que l'enfant se dise « Ah, mais ouais, mais c'est mon pote et tout », pour après abuser de cette confiance. C'est ça qui est ultra triste, et c'est un peu ça qui m'est arrivé. Du coup, on a abusé de ma confiance, et je me disais « Bah, en fait, il est gentil et tout ». Il m'a amené au parc pendant que mon père pouvait pas, il m'a acheté des trucs, des chouettes trucs en plus, et c'est justement abuser de cette confiance qui est triste. Parce que les enfants, ils font très vite confiance, parce qu'ils se disent, mais les gens qui sont autour de moi, les adultes qui sont autour de moi, normalement, ils veulent mon bien. Ils veulent juste mon bien, ils veulent juste me montrer qu'ils m'aiment et tout. Et justement, quand il y a des comportements détournés comme ça qui se passent, après, on se dit plus que, en fait, l'amour en général, il est comme ça, en fait. Quand on voit des comportements, je vais dire, très littéralement toxiques autour de soi quand on est petit, on va grandir avec ça, on va... Et même si on arrive à, entre guillemets, oublier, parce qu'on n'oublie jamais des choses pareilles, et c'est triste quand même, on n'arrive jamais à oublier.
Je te montre une phrase aussi que tu...
Quand on a vécu ce genre de choses, on fera tout pour empêcher des situations similaires. Et ça, c'est vrai. Par exemple, si moi, un jour, je suis maman, je ferai tellement attention à qui j'amène autour de mon enfant, surtout... J'ai intérêt à vraiment connaître cette personne, parce que moi, c'est mort, je ramène une personne à qui je me dis, ouais, je peux lui faire confiance. Pas juste lui faire confiance, c'est je peux lui faire confiance avec, par exemple, ma vie ou alors la vie de mon enfant. Et ça, c'est vraiment, faut faire vraiment attention à qui on amène autour de nos enfants. Parce qu'on peut se dire, ouais, ce type, c'est mon meilleur pote et tout, mais après, il peut faire des dingueries à nos enfants. Et c'est ça qui est triste. Et... on va essayer d'empêcher ça à nos amis et tout. On va, par exemple, leur dire « Ouais, fais ultra attention quand tu sors seul, nanana, nanana. » Et voilà, quoi.
Après, c'est vivre dans un monde de peur, non ? Se méfier de tout le monde, c'est...
Mais en fait, j'ai l'impression que c'est l'une des étapes pour se soigner, en fait. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, d'accepter ce qui s'est passé. On va tout le temps passer par une période de peur, de paranoïa, et tous dire « Ouais, il y a tout le monde qui veut ma peau, il y a tout le monde qui me veut du mal et tout. » On va tous passer par là. Parce qu'on va tous se dire que j'ai vécu des trucs horribles, ça pourrait se repasser à n'importe quel moment. Et en soi, faut pas se voiler la face, ça pourrait se repasser. Ça pourrait se repasser, tout peut arriver dans la vie, mais faut pas vivre dans une paranoïa constante. Faut quand même se laisser aller de l'avant. Parce que si ce qui s'est passé ne doit pas nous empêcher de grandir, ça ne doit pas nous empêcher de s'aimer nous-mêmes, d'aimer les autres, de se dire, même si on ne m'a pas montré un amour propre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, cet amour propre. Il existe en fait, mais il faut juste que je le trouve et que j'arrive à le garder. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, quand elles ont vécu des choses pareilles, par exemple, elles ont du mal à se mettre en relation avec les autres. Et ce que je comprends totalement, je suis aussi passée par là. En fait, il y a beaucoup d'étapes qu'on passe qui, en soi, sont différentes pour certaines personnes et tout, bien évidemment. Mais Il y a beaucoup d'étapes qu'on passe quand on a vécu des choses pareilles. La peur des autres, le manque de confiance en soi, justement. Se dire que, en fait, ben non, en fait, j'ai été salie par cette personne, je me sens sale, je sens encore ses mains sur moi et tout. Surtout cette phrase, je sens encore ses mains sur moi. Je sens encore comment il m'a touchée, comment il m'a fait mal. Franchement, c'est horrible. Et par exemple, on se regarde dans le miroir, on se dit, mais non, je me sens sale et tout. Et franchement, c'est ultra triste quand on arrive à cette étape-là, parce qu'après, on se sent mal. Et moi, par exemple, ça m'a lié à l'automutilation. Mais du coup, je garde encore des traces de cette automutilation sur moi. Et franchement, ça empire encore plus la situation. Parce que soit ça nous amène dans un cercle vicieux de se dire, ok, c'est une façon de m'aider. Alors que, bah, en soi, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal, mais on réalise pas sur le moment même parce qu'on est trop bas. Ou alors ça peut encore plus empirer la chose. Parce que quand on va se regarder dans le miroir et qu'on va voir ces cicatrices-là, on va se dire, ben merde, en fait.
Et je pense à quelque chose, Mika. Mmh. Pour d'autres jeunes, parce que tu disais que dans ta situation, ça avait duré des années.
Mmh.
Et est-ce que tu penses que très vite, le plus tôt possible, il faut pouvoir avoir la force de le dire à quelqu'un?
Mieux vaut le dire le plus vite possible. Genre, dès le moindre comportement déplacé, il faut le dire.
Et toi, ce que tu disais, c'est que tu avais peur de faire souffrir tes parents, de casser la relation d'aidant de ce type. Et ça veut dire que quelque part, tu avais peur, tu culpes. Je sais pas si c'est de culpabiliser, mais t'avais peur de faire du mal. Comme si tu t'étais responsable de quelque chose. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais ce que je rappelle encore une fois, et pour bon nombre de témoignages d'autres jeunes pour d'autres situations, c'est que les grands autour de vous ont l'obligation de prendre soin de vous. Et si à un moment tu sens que c'est pas le cas, il faut le dire. Tout de suite. Et je sais que ça peut être compliqué dans la situation dans laquelle chaque personne va vivre, mais quel conseil? Je préférerais que ce soit toi qui donne ce conseil de dire le plus tôt possible.
En fait, c'est surtout, bien sûr, c'est ultra compliqué de le dire le plus vite possible, parce que on a peur, on se dit, ben, si ça se passe comme ça, c'est que peut-être j'ai fait quelque chose pour que ça se passe comme ça. Et surtout quand on est enfant, on se dit souvent ça, mais j'aimerais le rappeler à tout le monde. Ce n'est pas de votre faute. Ce qui s'est passé n'est pas à cause de vous. Même si vous étiez un mauvais enfant ou quoi que ce soit, c'était pas à cause de vous. Cette personne-là était juste malsaine dans sa tête. Et ses comportements ne veulent pas dire quoi que ce soit sur qui vous êtes. Et franchement, ça peut beaucoup détruire. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faut toujours avoir une personne de confiance à qui on peut dire, ouais, cette personne-là, elle est bizarre avec moi. Genre, c'est pas le même amour que mes parents me montrent. Genre, c'est un amour, il est différent, que j'ai jamais eu. Et dès qu'on réalise qu'en fait, c'est un amour qui est pas semblable à nos parents ou quoi que ce soit, faut directement le dire. Parce qu'à partir du moment où on se dit, mais attends, mais mes papas, maman, ils m'ont jamais aimé de cette façon-là, c'est bizarre.
Est-ce que tu penses pas que les cours, les interventions dans les écoles très tôt pour dire avec des mots qui sont appropriés aux jeunes enfants,
ça pourrait franchement aider.
Ce que c'est qu'un comportement inapproprié de la part d'un grand.
Ouais. Mais franchement, ce genre d'intervention dans les écoles primaires, même, enfin, pas forcément maternelles, mais je dirais le plus tôt possible, ça serait vraiment important parce que ça peut arriver à n'importe quel moment du développement d'un enfant. Qu'il ait 4 ans ou même 11 ans, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut même arriver quand on est adulte. Il faut toujours faire de la prévention par rapport à ça. Par exemple, un enfant, genre quand il va entendre que « Ah, mais attention, si un adulte vous touche là où c'est privé, ou alors vous fait des petites remarques, ou alors vous chuchote des mots doux à l'oreille, des trucs comme ça et tout, il faut faire attention, c'est bizarre, c'est pas normal qu'il fasse ça. Il peut pas faire ça. » Un enfant qui va entendre ça et qui va se dire « Ah, mais attends, mais un tel, il fait la même chose avec moi. » C'est-à-dire que c'est pas bien. Peut-être cet enfant va se dire, et peut-être le dire au beau milieu de la classe, hein, au final, en mode « Mais madame, moi j'ai quelqu'un qui fait ça avec moi, alors que c'est pas normal. » Mais ça pourrait vraiment alarmer les gens. Et c'est normal que ça alarme les gens, parce que c'est censé alarmer les gens. C'est censé, genre, faire bouger une alarme dans la tête des adultes en se disant « Attention, ce gosse-là, il vit des choses, faut que je fasse quelque chose. »
Et tu disais tout à l'heure, même les adultes, parfois, même vous, grandes adolescentes, parfois quand vous vivez des relations difficiles avec parfois de amoureuse, avec parfois des coups, parfois tu vois des pas beaucoup de respect. Mm-hmm. C'est aussi un peu c'est dans le prolongement quoi. C'est comment se respecter et comment mettre des limites aussi. Comment dire stop.
Ça c'est sûr.
Parce que parfois c'est j'ai l'impression que c'est compliqué.
Bah en fait par exemple quand on a vécu des choses pareilles quand on était enfant et que justement on n'a pas pu en parler ou que ça s'est pas passé ou que ça s'est pas passé de la façon dont on aurait espéré que ça se passe après que ces choses-là se sont arrivées, ben franchement ça peut nous suivre dans nos relations et ça c'est vrai. Par exemple je vais imaginer un copain qui quand on veut pas faire l'amour par exemple, il nous dit mais non mais moi j'ai envie et tout et qu'il fait quand même et qu'on se sente obligé de le faire, c'est pas normal. Il faut pas laisser ça passer et s'il fait ça, faut directement le mettre à la poubelle. J'ai envie de dire directement à la poubelle. Faut pas se dire mais oui, mais je l'aime, ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout. Peu importe, si ça commence avec ça, ça peut finir d'une manière horrible. Mmh. Ça peut toujours finir d'une manière horrible. Et même, genre si la relation se passait bien et tout, ça veut rien dire. Au moindre fait et geste qui est inapproprié, qui n'est pas respectueux ou qui est violent même, faut pas laisser ça passer. Faut soit pas laisser ça passer ou alors avoir une bonne grosse discussion par rapport à ce qui s'est passé.
La communication et de faire comprendre.
Faut faire comprendre.
Et puis sur le choix, soit ça s'améliore, soit tu mets un terme.
Mm-hmm. Et franchement, je comprends que ça peut être ultra difficile de mettre un terme à une relation à laquelle on tient beaucoup, parce que justement, il peut y avoir la peur de l'abandon, le manque d'affection, d'amour qu'on a et que cette personne nous montre finalement. Mais les personnes violentes, souvent, elles sont aussi des gros manipulateurs. Parce que justement, généralement, ils vont prendre une personne qui savent que ben, cette personne, en fait, elle n'a pas vécu des choses faciles, elle a eu un manque d'amour dans son enfance et tout. Donc, du coup, ils vont justement faire genre « Ah, mais je t'aime beaucoup, nanana », ils vont leur faire plein de cadeaux, nanana. Mais justement, après, ils vont être violents. Mais après, la victime, elle va se dire « Ben, en fait, il y a un problème. Cette personne-là, elle m'aime et tout, mais il fait quand même ça. Donc, du coup, en vrai, il y a le pour et le contre. Le pour, c'est qu'il m'aime beaucoup. Donc, en vrai, le contre, il n'est pas si important que ça. Mais franchement, il faut toujours faire gaffe. »
Mika. Je vois que le temps file. Tu sais qu'on arrive à la fin déjà.
Aïe.
Ouais, je sais. Tout plein de sujets autres.
Ouais.
Celui-ci, on l'avait pas autant développé, mais moi, je t'ai laissé développer comme tu le souhaitais parce que c'était important pour toi. Là, je le sens de parler de ça parce que c'est hyper important. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta propre histoire, par rapport à.
Franchement, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, genre sur le moment même. Mais en soi, je me dis, j'ai vécu beaucoup de choses, genre de ma perspective, qui sont assez horribles, que j'aimerais pas que ça arrive aux autres, par exemple. Genre moi, si j'entends ça, que ça s'est passé chez quelqu'un d'autre, je serais ultra compatissante et tout. Mais je sais que mon parcours de soins ou d'amour de moi-même, il n'est pas encore abouti, parce que justement, je me dis toujours que, en fait... ce qui m'est arrivé, c'est pas si grave que ça, et que si ça arrive aux autres, là c'est vraiment grave. Je suis toujours à ce stade-là, et je suis à ce stade où je m'en fous un peu de ce qui m'est arrivé. Je m'en fous un peu de ce qui m'est arrivé parce que justement, j'ai pas envie que ça m'impacte comme ça m'a impacté il y a quelques années, parce que j'ai plus envie de repasser par cette même souffrance-là. Et en fait, j'ai envie de dire, tôt ou tard, on passera quand même par cette souffrance-là. Par cette souffrance de se remémorer ce qui s'est passé, de se souvenir de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit ou ce qui a été fait. On devra tous passer par cette souffrance-là parce que c'est un moment où on va se dire, où on va avoir le déclic. On va avoir le déclic de ce qui s'est passé et on va se dire dans sa tête, ça s'est passé comme ça. Maintenant, comment est-ce que je fais là maintenant pour évoluer de moi-même sans que cette personne-là ait encore de l'emprise sur ce qu'il a fait, et encore de l'emprise sur moi, en fait. Cette personne ne doit plus avoir d'emprise sur moi, et j'ai pas encore abouti de tout ce séjour, quoi. Mais je pense que tôt ou tard, ça arrivera, ça arrive toujours, et je suis prête à le faire, franchement, et j'ai envie de dire aux autres, faites-le, parlez-en à quelqu'un, aidez-vous-même, et même si vous avez des mécanismes de défense, ou alors... entre guillemets, en pensant que par exemple, je vais fumer tous les jours, ou alors je vais me taper une grosse raille tous les jours, ça va m'aider. ça vous aide sur le moment même. Et je parle de vécu, ça aide sur le moment même. Mais après la raille, après le stick, quand on pense beaucoup à ce qui s'est passé, ça aide pas. Ça aide pas parce qu'en plus, il y a l'influence de ce qu'on a appris et tout. Ou alors, dire, je vais passer toute ma nuit dehors et tout, ça va m'aider à oublier. Tôt ou tard, on va se retrouver dans sa chambre en se disant, je pense quand même à ce qui s'est passé.
Parce que tes refuges t'accompagnent. Enfin, je veux dire, tu m'as parlé aussi de ces moments refuges qui sont hyper importants et qui sont parfois mal considérés parce que ce sont des lieux où on peut te reprocher. Je pense par exemple au free party où tu rencontres pas mal de gens, il y a la drogue qui circule pas mal aussi. Parce que c'est aussi important de trouver des endroits où tu vas pouvoir relâcher la pression.
Bien sûr.
Peut-être que je suis maladroit à dire ça, mais pourquoi c'est si important ? On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, Mika. Mm-hmm. Mais pourquoi ces moments-là se construire ? Parce que, au-delà de ça, Mika, moi j'ai une question, c'est quelle est la raison pour laquelle on te place en IPPJ ?
Mais je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet.
Non, pas dans les détails.
J'ai passé par des moments où je fuguais beaucoup de chez moi, des moments où je consommais beaucoup, même trop. Je me suis retrouvée dans des situations délicates où je me mettais en fait moi-même en danger. J'étais dans des situations où je dealais, mais en fait je dealais, mais en même temps c'était un danger pour moi parce que tout pourrait m'arriver à ce moment-là et mes parents étaient même pas au courant. Ils savaient même pas ce qui se passait pour moi. Ma mère, elle allait quasi tous les jours au commissariat à dire s'il vous plaît, ma fille, elle est pas là, elle vient pas à la maison, je sais pas ce qu'elle fait, elle répond plus à son téléphone. Et
est-ce que tu penses que c'est une étape nécessaire pour t'aider dans ta colère, dans ta tristesse par rapport à ce qui s'était passé
J'ai l'impression que c'est un peu la rébellion, quoi. C'est la rébellion, on se dit, en fait, moi j'ai trop souffert, maintenant soit je vais faire souffrir les autres, ou alors je fais ce que je veux, parce qu'on m'a privé de cette liberté de ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai envie de faire ce que je voulais. Mais en soi, sur le moment même, ça va peut-être nous faire plaisir, mais après, on va quand même avoir la réalisation, on va avoir les conséquences de nos actes, et quand on les a, genre, d'un coup, dans la figure, ça fait mal. C'est comme si on se prend un mur à 180 km par heure. Ça fait très très mal. Donc du coup, franchement, j'aurais préféré aller voir quelqu'un, parler à quelqu'un et tout, que de faire ce que j'ai fait, quoi. Mais en soi, j'ai envie de dire aussi ce que j'ai fait, ça a pu me construire aussi un peu. Ça a pu me construire et me dire que, en fait, ces choses-là, je dois plus les reproduire. Je dois plus les reproduire parce que je me suis sentie comme ça. En soi, faut pas se dire seulement à nous, mais j'ai fait ressentir ça aux autres personnes aussi, aux gens qui m'aimaient.
Qu'est-ce que tu as fait ressentir ?
J'ai fait ressentir de la peur à ma mère. De la peur. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec ma fille ? Ma fille, là maintenant, elle est dehors, je sais pas, elle est où ? Il pourrait lui arriver tout et n'importe quoi. Et franchement, il y a certains jeunes qui fuguent et qui se disent, genre, moi aussi, quand je fuguais, je me souciais pas de ma mère, sur le moment même. Mais franchement, faut pas oublier que même si ça se passe ultra mal avec les parents et tout, les parents, quand vous êtes pas à la maison, pendant des jours, des semaines, des mois même parfois, franchement, je vous jure, ils ont peur pour vous. Ils ont peur pour vous parce que même moi, pour une simple soirée où j'allais d'after en after, pendant des jours, ma mère, elle pleurait littéralement. Mon père, il me reprochait en mode, t'as pas idée comment tu l'as fait souffrir. Et franchement, faut toujours réfléchir à ça parce que faut pas se dire je fais que du mal à moi-même. Je fais aussi du mal aux gens qui m'aiment. Parce que certes, on va en soirée avec des potes et tout, mais ces potes-là, si on leur répond pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et tout, ils vont pas se dire ah, il se passe quelque chose, je vais appeler la police. Non, ça sera toujours nos parents qui vont faire ça en premier. Ça sera toujours eux qui vont se dire non, il se passe un truc avec ma fille, j'ai un mauvais pressentiment et tout, j'ai peur, je vais aller aux flics. C'est eux qui vont faire ça surtout.
Merci beaucoup, Mika, de ton témoignage. J'espère que je n'ai pas été maladroit en abordant ces sujets-là. Et puis, je voulais te dire que j'étais content de te rencontrer et pour ta préparation et puis pour aujourd'hui. Mmh. On a transformé un petit peu la préparation et encore une fois, je t'ai suivi dans ce qui semblait fort important pour toi. Juste une chose, qu'est-ce que tu as pensé de nous deux aujourd'hui ?
Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que déjà, mettre en place ce projet-là, c'était un peu, c'était une petite excitation. J'étais là en mode, ah ouais, chouette, je vais pouvoir parler de certains trucs et tout qui me portent à cœur. Et surtout, mettre sur la table ce qui se passe, ce que j'ai vécu, comment j'ai fait petit à petit pour essayer de sortir de là-dedans. Et franchement, je recommande cette expérience aux autres jeunes. Parce que si vous avez besoin d'aide, ou alors juste besoin de souffler, ou alors vous avez un sujet qui vous porte à cœur, en mode, je sais pas, la société, comment les gens sont et tout, franchement, venez à Samarcande. Parce que franchement, c'est un chouette truc. Et ben aussi, vous pouvez parler aux autres. Vous pouvez parler à certains jeunes qui écoutent la radio et qui se disent « Ah ben c'est chouette en fait, c'est chouette, ce jeune-là il parle des trucs qui moi m'intéressent » ou que « Ah, ce jeune-là il a vécu les mêmes trucs que moi, il est passé par les mêmes étapes que moi ». Souvent quand on parle de sujets un peu compliqués de l'enfance et tout, on va souvent ramener des spécialistes, genre des psychologues, des pédopsychiatres et tout, et franchement faut pas que ramener eux, ok faut les ramener aussi pour une touche un peu... genre par exemple sur la logique de comment ça fonctionne et tout, mais il faut aussi ramener des gens qui ont vécu ça, des gens de tout âge, des enfants, des jeunes et des adultes, de comment est-ce que moi j'ai surmonté ce poids, comment est-ce que j'ai surmonté ce poids d'exister littéralement, mais je l'ai fait comme ça, et j'espère que vous aussi ça vous aidera, et franchement, il faut le faire parce que ça peut aider tellement de personnes, et même là maintenant, au moment où je parle, ça pourrait arriver à une autre jeune fille, qui n'a pas encore réussi à en parler et qui peut-être ce soir dans son lit elle va entendre ça, elle va se dire bah merde en fait je devrais en parler parce que c'est pas normal, et franchement j'espère que ça fait cet effet là et franchement les jeunes venez plus parler parce que ça peut vous aider vous, en plus c'est amusant et franchement bah, c'est cool quoi.
Merci hein, Mika, je te laisserai encore parler longtemps mais il faut qu'on s'en aille.
Ok.
Merci à toi et je te souhaite le plus beau chemin.
Ah merci, franchement merci à toi. Et mais j'espère qu'on se reverra un jour. Et quand je serai sortie d'ici, je viendrai à Samarcande définitivement.
Au revoir.
Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi quand moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Comme Issa, pourquoi je suis banné la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha cha de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent, témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur portait le voile, je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil, c'est rien Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire, les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant